Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Mesdames et messieurs, bonjour, votre journal des sports de ce jeudi 24 juillet 2025 déjà. On commence avec du football et l'Espagne rejoint l'Angleterre en finale du championnat d'Europe féminin. La Rora, championne du monde en titre, vise le premier trophée européen de son histoire. Les Anglaises, elles, visent un doublé déjà tenante du titre. Finale dimanche à Bâle. Autre finale féminine, celle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 13e édition. Les Marocaines éliminent le Ghana et se qualifient pour leur deuxième finale de suite. Les Lions de l'Atlas, comme on les surnomme, défieront les Nigérianes samedi pour un premier trophée continental. Un challenge de taille puisque le Nigeria a remporté 9 fois le trophée. Le Maroc étant pays organisateur pourra compter sur son public. Une belle affiche, finale ce week-end donc. Cyclisme à présent bien sûr et la première victoire française d'étape sur le Tour de France 2025. Pas n'importe laquelle, sur le Mont Ventoux. Valentin Paré-Peintre a remporté la 16e étape. Le jeune coureur de 24 ans devient le 5e français vainqueur au sommet du Mont Ventoux. Seul Richard Virenque avait réussi cette performance au 21e siècle. Retour sur cette victoire mythique avec Éric Mamrut pour Radio France Internationale.
Le Français de 24 ans qui a pris la bonne échappée pour s'imposer juste devant l'Irlandais Ben Healy. Pas mal pour un coureur qui découvre le Tour de France cette année. De quoi être assez incrédule à l'arrivée quand Thomas de Saint-Léger lui a tendu son micro. Valentin Paré-Peintre.
C'est difficile à dire, c'est incroyable. Même ce matin, j'y croyais pas, je pensais pas vraiment à l'échapper. Je pensais que Pogacar allait vraiment jouer la victoire. Après, ils ont essayé au début, mais un gros groupe est parti et finalement, c'était pas possible pour eux de contrôler, je pense. Et voilà, c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser encore.
Valentin, est-ce qu'il y a plus beau pour ouvrir son compteur sur le Tour de France qu'une victoire là-haut, au Ventoux ?
Peut-être l'Alpe d'Huez ? Non, je sais pas. C'est incroyable. Je pense quand on pose la question à des étrangers, quel col tu connais en France, ils disent soit le Ventoux, soit l'Alpe d'Huez, je pense. Donc c'est vraiment incroyable de gagner ici et ouais, je réalise pas.
Valentin Paré-Peintre, 5e français à s'imposer au sommet du Mont Ventoux après Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard, Richard Virenque. Le dernier, c'était en 2002.
Tadej Pogacar conserve son maillot jaune et rafle également le maillot à poids, celui de meilleur grimpeur. On écoute sa réaction justement à Tadej Pogacar après la victoire française.
J'aime bien ce gars. Je l'ai croisé et c'était sympa de voir à quel point il était heureux. C'est une montée de légende et Valentin est un pur grimpeur, donc c'est mérité. Moi, bien sûr, je veux toujours gagner et je ne suis pas du genre à laisser passer des occasions, mais encore une fois, il le mérite.
Bon, vous l'entendez, hein, Tadej Pogacar, bon joueur. Le Français Kevin Vauclin perd une place au classement général et devient 6e. Et à noter que victime d'une pneumonie, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, vainqueur de la 2e étape, a été contraint à l'abandon. Hier, mercredi, 17e étape, 160 km de plat entre Bolène et Valence. C'était censé être calme, c'était plat et pourtant il y a eu des dégâts, comme le raconte Cédric De Oliveira, RFI.
Et grosse chute dans le final avec cette chute collective, qui a perturbé le peloton à 1 km de l'arrivée sous la pluie. Le sprint a donc eu lieu en petit comité. Ils étaient une dizaine et c'est finalement Jonathan Milan qui a eu le dernier mot. Sans le Belge, Tim Merlier ni Binyam Girmay piégé dans cette fameuse chute. L'Italien était plus fort que le Belge Jordi Meus et Tobias Lund Andresen. C'est la deuxième victoire d'étape sur cette grande boucle pour le sprinteur de la Lidl Trek qui a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers.
I'm really happy I'm without.
Je suis vraiment très heureux, je n'ai pas les mots. J'ai survécu avec l'aide de mes équipiers, je dois vraiment le dire, parce que sans eux, je ne serais peut-être pas là, je serais hors délai depuis longtemps. Aujourd'hui encore, c'était une étape difficile. On a contrôlé depuis le départ avec l'aide de quelques autres équipes. Cela a été aussi un final difficile à cause de la météo notamment. J'avais un peu peur, je dois l'avouer, mais mes coéquipiers m'ont supporté. C'est vraiment fantastique. C'est une victoire d'équipe. Je les remercie de tout mon cœur et je suis heureux pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas encore fini. Il reste des jours difficiles avec des montées difficiles. On va continuer à se battre pour les sprints intermédiaires et le dernier jour, on verra comment ça va se passer. J'ai repris un peu le large aujourd'hui au classement par points. Je vais encore essayer d'aller en chercher un maximum.
Jonathan Milan, le vainqueur de la 17e étape entre Bolène et Valence, qui a conforté son maillot vert de meilleur sprinter. Pour Binyam Girma, est projeté sur les barrières lors de la chute à 1 km de l'arrivée. Il a franchi la ligne, le bras en écharpe. Le tour pour lui est décidément plus compliqué que l'an passé où il avait brillé. L'Érythréen ne souffre pas de fractures ni de blessures sévères selon son équipe Intermarché.
Allez, on retrouve notre collègue Christophe Mallet. Christophe, bonjour, vous êtes toujours en France. Encore 4 étapes, Christophe, avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Ce jeudi, les coureurs atteignent les Alpes, direction Courchevel. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette 18e étape ?
Ah bah oui, Courchevel, c'est une des étapes qu'on appelle l'étape reine, tout simplement, de ce Tour de France, parce qu'il y a vraiment énormément de montagnes, d'altitude à passer, 5600 mètres d'altitude à franchir sur cette étape. Alors, il y a plusieurs enjeux dans cette étape, notamment une, premièrement, qui intéresse les Français et les Françaises, c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez est en bataille ex aequo avec 60 points au maillot à poids. Maillot à poids, donc maillot du meilleur grimpeur, avec Tadej Pogacar. Et ce soir, il y a deux grosses ascensions avant l'arrivée donc de l'étape, notamment le col de la Lauze. Et à ce niveau-là, eh bien, Lenny Martinez pourrait faire la différence. Ce qu'il faut faire pour lui, c'est partir tout de suite, dès le début de l'étape, surprendre Tadej Pogacar et aller prendre les points dans les deux grands cols avant l'arrivée. Et comme ça, Lenny Martinez pourrait avoir une chance de remporter le maillot à poids. Sans ça, ça risque d'être extrêmement compliqué pour le Français de le faire. La premier enjeu, donc, à ce niveau-là. Le deuxième enjeu, eh bien, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar veut s'offrir une victoire de prestige, en tout cas, sur cette étape. Cette étape franchit le col de la Lauze, un col de la Lauze où Tadej Pogacar a eu plusieurs fois des problèmes dans ce col. Un col qu'il a trouvé compliqué. Il veut retrouver de bonnes jambes, en tout cas sur ce col. Donc Tadej Pogacar est l'énorme favori pour cette étape.
Et en parallèle, il y a le Tour des Femmes qui va débuter samedi. Christophe, 3e édition moderne après les 6 années de grâce dans les années 80. Plus de 1000 km répartis en 9 étapes, de Vannes à Châtel, et pas de repos prévu pour les coureuses.
Oui, un tour féminin qui, vous pourrez d'ailleurs tout d'abord le suivre à l'antenne d'SBS, à la télévision, des étapes qui se chevauchent les deux premiers jours avec le tour masculin, et puis après place au tour féminin dans son intégralité. Ça va être un beau tour de France féminin avec de belles ambitions australiennes également, et il y a quelques coureuses australiennes qui peuvent vraiment faire la différence, notamment Neve Bradbury qui est dans l'équipe de la vainqueur en titre du tour, donc Nadia Cassia Nyodoma. Et donc cette édition peut être très intéressante. On part de Bretagne, donc à Vannes dans le Morbihan, direction les Alpes avec Châtel. Donc on retraverse une nouvelle fois la France en diagonale. Donc ça peut être vraiment un très beau, très belle édition de ce Tour de France, parce qu'il y aura tout. Il y a du vent, il y aura des étapes de sprint, et puis bien entendu on finira encore une fois par la montagne. Et on l'a vu l'année dernière quand ça s'est terminé dans la montagne, notamment à l'Alpe d'Huez l'année dernière. Eh bien ça s'est joué à 4 secondes. Donc il y a des revanches à prendre pour l'année irlandaise Vollering. Énormément d'enjeux sur ce Tour de France féminin avec Zwift. Donc Tour de France femme avec Zwift, c'est le nom total de cette épreuve, à voir bien entendu sur SBS. Et on vous fera suivre tout ça en français également sur Radio SBS.
Merci Christophe, à très bientôt.
Merci Marianne, et bonne journée à tous.
Et en tennis, on vous le disait dans le dernier journal des sports, elle est de retour et c'est un retour gagnant. À 45 ans, Venus Williams a joué le tournoi de Washington 16 mois après son dernier jeu. Eh bien, l'aînée des sœurs Williams s'est imposée en 2-7 gagnant 6-3, 6-4 contre sa compatriote Peyton Stearns. Solène Ravanel a suivi le match.
Venus Williams, back.
Pour un retour surprise, il est réussi pour Venus Williams. Alors qu'elle n'a disputé qu'une quinzaine de matchs pour 3 victoires ces 4 dernières années, l'ancienne numéro 1 mondiale a fait ce qu'elle a toujours su faire, frapper fort et servir fort. Et cette fois-ci, ça a marché. Pourtant, le match n'a pas été simple pour l'aînée des sœurs Williams, qui a vécu une entame de match compliquée avant de prendre les commandes de la rencontre.
Vous savez, c'est le début et le premier match est toujours terriblement compliqué. C'est difficile de décrire à quel point c'est difficile de jouer un premier match après une pause si longue.
Et la victoire n'est que plus belle pour Venus Williams, qui se faisait opérer il y a un an de fibromes utérins. Sourire aux lèvres à la fin du match, elle a célébré avec sa pirouette signature sous les applaudissements du public.
Je ne pouvais pas mieux faire. Jouer un beau match et le gagner. En plus, je suis ici avec mes amis, ma famille, les personnes que j'aime et les supporters aussi. C'était juste une nuit fantastique.
La magie continue pour la championne aux 7 titres en Grand Chelem, qui est encore loin de vouloir raccrocher la raquette.
Venus Williams va tenter une deuxième victoire de suite en affrontant la numéro 5 mondiale, la Polonaise Magdalena Fresh. Les femmes transgenres américaines ne pourront pas participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Elles se voient privées des épreuves féminines, décision prise par le Comité olympique des États-Unis après le décret de Donald Trump. On rappelle que Los Angeles accueille les prochains Jeux en 2028. L'occasion de se pencher sur l'héritage des Jeux de Paris un an après, c'était bien sûr en 2024. Les Jeux paralympiques ont largement contribué à changer le regard du public sur les sportifs en situation de handicap. Et pourtant, les athlètes peinent encore à attirer les bénéfice de cette exposition, leur compétition semble peu à peu retomber dans un relatif anonymat. Exemple, il y a quelques semaines au stade Charletti dans le sud de Paris, Christophe Diremzian pour RFI.
2 juin, première journée de l'Handisport Open au stade Charletti. Devant un public clairsemé, Timothée Adolphe, vice-champion paralympique du 100 mètres malvoyant, remporte l'épreuve, mais un souci de starting block au départ fait glisser son guide, Charles Renard. La course à peine terminée, les deux hommes ne laissent pas passer l'incident.
Il y a 8 mois, on avait les Jeux. L'année dernière, on était ici, on avait des blocs tout neufs, tout était neuf, clean pour les Jeux. Maintenant, on repart dans l'amateurisme. Aujourd'hui, on pouvait faire un gros chrono. Franchement, je suis dégoûté. Limite, les blocs sur le stade d'échauffement sont mieux que sur la piste de compète. C'est un manque de respect.
Une réaction épidermique mais symptomatique d'un milieu ballotté entre désillusion et fatalisme sur l'après-jeu. Fini les tribunes pleines et les soirées enfiévrées pour les Paralympiens au Stade de France, au pied de la Tour Eiffel ou du pont Alexandre III. L'engouement est retombé et avec lui les promesses de lendemain meilleur pour des sportifs et notamment leur confort matériel. Dimitri Pavadé, quatrième du saut en longueur l'an passé, n'est pas le plus à plaindre, mais les moyens n'ont guère évolué.
Nous, on investit dans nos stages avec l'équipe de France. Moi, j'ai jamais connu ça auparavant. Il y a des jeunes qui arrivent, eux, ils sont obligés de payer leur stage, l'impôt, par exemple. Or, qu'ils n'ont pas forcément d'aide, c'est encore étudiant ou ils commencent à travailler. C'est très compliqué.
Compliqué aussi de continuer de rivaliser avec l'élite internationale sur le long terme sans sécurité financière. Or, les sponsors sont devenus plus frileux, des contrats n'ont pas été renouvelés. L'Agence nationale du sport reste alors souvent la principale interlocutrice des athlètes pour leur assurer un avenir au plus haut niveau. Arnaud Litou, manager de la performance paralympique.
Pour les athlètes avec un profil de potentiel médaillable, on a un engagement d'assurer un seuil de revenu annuel, 40 000 euros brut par an, qui nécessite qu'on aille chercher des partenaires ou qu'on mette des fonds d'État pour assurer d'arriver à ce seuil. Et c'est tout le chemin à parcourir pour en arriver là où on doit accompagner les athlètes en fonction de leur niveau de pratique et en fonction de leurs besoins également.
Mais si les financements publics restent primordiaux, ils se fragilisent dans le contexte budgétaire actuel. Le privé doit donc aussi prendre sa part et il y trouvera son compte, rappelle Gaël Rivière, joueur des Bleus du Cécifoot, devenu président de la Fédération française handisport.
Nous, ce qu'on dit de manière globale, c'est qu'avec le parasport, on a quelque chose qui est porteur de valeur, de message, et ensuite, il y a beaucoup de belles histoires à raconter et à accompagner. C'est un vrai appel qu'on continue à faire auprès des partenaires en leur disant n'interrompez pas vos efforts, en vous disant on reviendra un an ou deux ans avant les Jeux. Si on veut récolter demain les fruits d'un travail, il faut commencer à travailler dès maintenant.
Pérenniser l'effet positif des Jeux paralympiques, un travail de longue haleine pour que les 75 médailles récoltées à Paris 2024 ne deviennent pas le simple souvenir d'une parenthèse désenchantée.
Voilà messieurs, dames, c'était votre journal des sports de ce jeudi 24 juillet. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec les sports, c'est mardi prochain. Au revoir, bonne journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.